Nous avons entendu dans ce psaume cette phrase « Amour et vérité se rencontrent, amour et vérité sont unis ». Et je voudrais ce matin avec vous approfondir cette parole du Seigneur, tout d'abord en voyant ce qu'est la vérité, puis dans un second temps, vous proposer trois liens importants entre l'amour et la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Cette question de Pilate à Jésus au moment de la Passion. Nous savons qu'à un moment donné, Jésus va dire « Je suis la vérité ». Alors pour approfondir cette phrase du Christ, je voudrais vous proposer un petit exemple tout simple pour démarrer notre réflexion. Imaginez que je vous dise que dans cette église, il y a une seule personne. Vous allez dire « Le Père Yves-Marie dit quelque chose de faux » et vous aurez raison, car ce n'est pas réel. Parce que la vérité, c'est la réalité accueillie par l'intelligence. C'est ce que dit notamment le philosophe Aristote, c'est la réalité accueillie par l'intelligence. Et même les philosophes qui disent qu'il n'y a pas de vérité, ou à chacun sa vérité, ou tout est qu'apparence, ces philosophes, je les mets au défi, si un jour ils se font voler leur portefeuille, de maintenir leur position. Ils ne vont pas dire « c'est que l'apparence, mon portefeuille ». Ils ne vont pas dire « à chacun sa vérité, il y a la vérité du voleur et la mienne ». Non, ils vont réagir, ils vont porter plainte, car c'est le bon sens, la réalité. La vérité, c'est la réalité accueillie par l'intelligence. Et nous, créatures, nous recevons cette réalité, nous la créons pas, nous ne sommes pas Dieu. Mais Jésus, lui, il est Dieu. Il est à l'origine de toute réalité. Il est la vérité même. En opposition à lui, il y a le démon, qu'il nomme le père du mensonge. Et les faux prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas au service de la vérité, mais du démon. Nous avons un exemple dans la première lecture où le prêtre de Bethel, Ananias, reproche à Amos justement la vérité, de dire la vérité. Il renvoie Amos en disant « Toi le voyant, le prophète, va-t'en d'ici. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Mais Amos, lui, désire servir la vérité. Et c'est ce que le Seigneur demande aux apôtres. Il les envoie proclamer la bonne nouvelle sans rien prendre pour la route, seulement à bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Car leur pouvoir, c'est la vérité. La vérité, qui vient du Christ, a un pouvoir immense. Elle peut même transformer notre vie. Nous avons entendu dans cette seconde lecture, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous qui avons d'avance espéré dans le Christ, en lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Amour et vérité se rencontrent. Je voudrais vous proposer trois liens pour mieux approfondir cette parole du Seigneur, et le dernier, à mon avis, sera le plus important. Tout d'abord, la vérité est aimable. C'est ce qui fait aussi tout le ressort de la recherche scientifique. Je connais une personne qui passe des heures à découvrir les petites particules dans l'espace, une nouvelle particule inconnue, une recherche de la vérité. Et puis bien sûr, par rapport à notre foi, nous cherchons à approfondir notre foi parce que nous désirons approfondir la vérité, Jésus qui est la vérité. A contrario, si quelqu'un nous ment tout le temps, on va s'éloigner de lui car c'est inintéressant d'entendre des mensonges, cela nous repousse. La vérité est aimable. La vérité, chercher la vérité, fait grandir l'amour. Vous savez, toujours vouloir avoir raison entraîne des disputes interminables. Si nous pensons que nous fabriquons notre vérité, nous ne pourrons pas dialoguer. Mais si nous recherchons la vérité, si nous argumentons notre position, le dialogue est possible. Le réel, ce n'est pas nous qui le créons, nous le recevons. Et de même, le réel de la révélation vient de la Bible et de la tradition de l'Église catholique. Et en l'accueillant, nous pouvons partager notre foi, dialoguer sur quelque chose qui nous dépasse. De plus, aimer, c'est vouloir le bien de ceux qu'on aime. Et c'est cela que je voudrais exposer plus particulièrement avec vous. Aimer, c'est vouloir notamment le bien de ceux qu'on aime. Par exemple, un compliment pour encourager, un service. Et pour savoir le bien de ceux qu'on aime, il est important de distinguer le bien du mal. Car un amour sans vérité est un faux amour. Si nous ne faisons pas le bien de l'autre, eh bien nous ne l'aimons pas vraiment. C'est pour cela que la morale est importante. Alors on pourrait dire, mais quel est le lien entre la morale et l'amour ? Saint Augustin dit d'ailleurs, aime et fais ce qu'il te plaît. Alors sauf que cette phrase de Saint Augustin, aime et fais ce qu'il te plaît, a un contexte qui est exactement l'inverse qu'on pourrait imaginer. Il donne deux exemples. Il donne d'abord un exemple d'un faux amour. Il dit, c'est le maître qui cajole son esclave. Apparemment, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, mais le maître ne respecte pas la dignité de son esclave, c'est un faux amour. Il donne un autre exemple qui est un amour véritable, c'est le père qui corrige son enfant pour l'éduquer. Apparemment, il n'y a pas trop d'affection dans une correction, et pourtant, c'est le bien de l'enfant. Et saint Augustin conclut en disant « Aime et fais ce qu'il te plaît ». Il est important donc de voir quel est le véritable bien, de mettre l'amour en lien avec la vérité, car hélas, comme nous sommes blessés par le péché originel, l'affection peut être parfois contre l'amour. Heureusement, elle est bien sûr un moteur de l'amour, mais pas toujours. Et je voudrais vous donner deux exemples contemporains pour illustrer cela. Tout d'abord, le mariage est un amour particulier, un amour spécial. C'est fonder une famille, et l'exercice de la sexualité permet cela. Et pour fonder une famille, pour avoir un enfant, et c'est la réalité, il faut un homme et une femme, un papa et une maman. Et nous savons qu'il y a quelques jours, une loi est passée en France où pour avoir un enfant, il y a toujours un papa et une maman, par une PMA, mais on va mentir, on va dire à l'enfant, on va cacher son papa, on va lui dire, tu as deux mamans, on va mentir à l'enfant. Et là, ce n'est pas la vérité de l'amour, ce n'est pas le bien de l'enfant et le bien des relations humaines. Ainsi, l'Église, dans son catéchisme, au numéro 2357, dit ceci. Les actes homosexuels ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. J'insiste, véritable. Ils ne sauraient donc recevoir l'approbation en aucun cas. C'est pour cela que des personnes catholiques ayant des tendances homosexuelles choisissent de ne pas poser ces actes, car elles savent que c'est contraire au véritable amour. La vérité de l'amour, amour et vérité se rencontrent. Un autre exemple, depuis quelque temps, il y a un adage qui dit ceci. L'amour dure 3 ans. Alors c'est un petit peu embêtant parce que les personnes désirent être aimées pour toute leur vie et l'amour durerait que 3 ans. De fait, sentir qu'on aime, c'est fluctuant et des fois ça dure que 3 ans. Mais la vérité de l'amour engage plus que le sentiment, engage toute la personne, le corps, le sentiment, l'intelligence et la volonté. Si bien que dans un véritable mariage, il y a un engagement pour la vie, pour aimer l'autre, quoi qu'il se passe, malgré parfois les disputes, les incompréhensions, eh bien, on choisit d'aimer l'autre pour toujours, pour toute la vie. Et cela soutient l'amour beaucoup plus que 3 ans. Amour et vérité se rencontrent. Parfois, l'amour est en danger. Il y a quelques années, un chanteur, Balavoine, avait donné ce titre à sa chanson, « Qui pourra sauver l'amour ? Qui pourra sauver l'amour ?» Effectivement, l'amour a besoin d'être sauvé, et une des clés, c'est de toujours l'associer à la vérité. Que la Vierge Marie nous aide à vivre cela et à le partager autour de nous. Amen.